Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cet homme a été Robert De Niro dans la plus longue scène de poursuite automobile de l'histoire du cinéma, dans Running. Il a réglé l'accident de moto de Jean Dujardin dans Les Petits Mouchoirs, a reçu aux États-Unis l'équivalent de l'Oscar de la cascade pour avoir doublé Matt Damon dans La Mémoire de l'eau, a fait des embardées folles pour Mesrine avec Vincent Cassel, a été James Bond, a même doublé Jackie Chan et a commencé devant les caméras sur le circuit du Mans dirigé par Steve McQueen. Avouez que c'est chic. La vie de Jean-Claude Lagnier, cascadeur de réputation internationale et pilote qui a remporté les 24 heures du Mans en 97, est aussi hallucinante que tous les films auxquels il a participé. 1800, depuis un petit peu plus de 45 ans, en prenant la place des plus grandes stars au moment des scènes de danger extrême en voiture. Voilà, doublure. Ma vie de pilote et de cascadeur de cinéma vient de paraître chez Solar Edition. Et franchement, l'heure s'annonce intense puisque j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Lagnier.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
C'est impressionnant hein, quand on entend tout ça, franchement.
Oui, donc ça va, c'est un peu l'habitude quand on a réussi à mettre ça dans le temps.
Voilà, mais moi ça m'impressionne. Alors Jean-Claude Lagnier, naïvement, à force de voir dans les blockbusters des effets spéciaux en images de synthèse programmées par ordinateur, eh bien, le public imagine que les cascades automobiles affolantes devant lesquelles il retient son souffle, eh bien, naissent toutes dans des logiciels avec des images artificielles. Le public finit par penser ça. Mais il se trompe le public, n'est-ce pas? Les cascadeurs automobiles en 2021 ont toujours une sacrée cote. Et pourquoi?
Bah, les cascadeurs français, en général, ont une grosse cote, parce qu'on fait des films où il n'y a forcément pas assez de budget pour les faire, et que c'est absolument impossible de faire les VFX qu'il faut en Amérique, parce que c'est pratiquement le double d'un budget d'un film français. Déjà, ouais. Rien que pour les VFX, vous voyez ce que ça peut faire.
Ouais.
Bon, et puis moi, je suis pas du tout, j'ai horreur de ça. Et puis les grands metteurs en scène américains avec qui j'ai travaillé, comme John Frankenheimer, voulait absolument pas que la vitesse soit trichée.
Ouais.
Donc tout ce qu'on a fait dans Paris même, à 140 sur les voies express ou à 150 en sens inverse sur le périphérique, qui était en fait la route qui va à Versailles, elle était en construction. Donc j'avais fait tracer trois lignes par terre, et nous on arrivait en face. Et les gens qui venaient en face, c'était des pilotes à nous.
Ouais.
Qui n'avait absolument pas le droit de bouger, évidemment. C'était nous qui faisions tout.
C'était un balai, archi réglé.
Oui, mais il fallait mieux que ce soit bien réglé, parce que sinon, là, c'est un peu la catastrophe. Mais Frankenheimer n'a jamais voulu qu'on fasse des images, par exemple, des images à 16 images par seconde.
Ouais,
c'est-à-dire que plus vous ralentissez la caméra...
Oui, c'est ça. Et après, on accélère.
Et après, un peu Charlie Chaplin.
C'est-à-dire que vous, par exemple, vous affirmez qu'une cascade n'est pas spectaculaire quand elle n'est pas réelle. Il faut vraiment qu'on sente qu'elle est authentique.
Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours appris à faire ça. Maintenant, je sais qu'ils ont tellement, ils ont fait tellement de progrès dans les VFX que les jeunes, les enfants...
Vous pouvez nous rappeler, en fait, ce que signifie concrètement VFX?
Ah, oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des prises de vue à petite vitesse, avec pas beaucoup de monde. Et après, quand ils font le montage, ils rajoutent des voitures, ils rajoutent de la vitesse.
Tout ça sur ordinateur.
Tout ça sur ordinateur. Voilà comment ça se passe. En
3D.
Voilà,
bon.
En 3D.
Alors, Jean-Claude Lagnier, vous n'avez jamais regardé Fast and Furious parce que vous savez que tout est bidonné et vous détestez ça, n'est-ce pas?
Ah oui, non, je n'ai jamais regardé. J'ai même pas vu une image encore.
Et vous n'en verrez jamais.
Sauf si je regarde la télé qu'à ce moment-là, ils montrent un truc. Mais bon, Fast and Furious, c'est... Comment voulez-vous qu'une voiture saute d'un immeuble à l'autre et que tout se passe bien, quoi? C'est carrément impossible.
Jean-Claude Lagnier, un bon cascadeur, c'est celui qui est capable d'inventer le danger en même temps qu'il invente la parade absolue au danger, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, on n'est pas là pour se faire mal, en fait. Donc, on fait des prises de vue de films incroyables. Moi, je sais, j'ai fait moi-même une cascade pour un film de John Guillermin, qui a quand même fait la tour infernale, Mort sur le Nil, quelqu'un... On a tourné dans Bozili Park au Kenya.
Oui.
Et là, franchement, personne ne voulait faire cette cascade. Les Américains, ils étaient venus, mais ils n'avaient trouvé personne pour le faire. Parce que c'était le début des voitures avec un canon à l'intérieur,
oui.
Qui n'avait pas besoin de tremplin pour faire des tonneaux.
Oui.
Donc c'était un grand film pour ça, mais c'était un des, je crois, des 900 navets au monde qui ont été faits.
N'empêche que le moment de la cascade est fabuleux.
Ah oui,
et comme personne ne voulait la faire, il y en a un qui s'est proposé, c'est vous.
Oui, bah oui, parce qu'il fallait bien qu'on la fasse. Donc c'était un metteur en scène d'une grande force quand même. Quand on fait la tour infernale, c'est qu'on est quand même un bon avec Paul Newman et Steve McQueen. Donc on ne peut pas se dégonfler en fait. On avait fait un essai deux jours avant avec un autre Range Rover qu'on avait, enfin Land Rover plutôt, décapotable, hein, qui était préparé pour faire un essai. Et je pense que le Max Cleven, qui était le gars qui s'occupait des effets spéciaux, je pense qu'il avait chargé un peu, si vous voulez, un canon, c'est une bouteille d'oxygène. On coupe là où il y a les manos.
Oui.
On le soude dans la voiture sur un arceau.
Au secours.
Oui, le fût du canon, il est à 5 cm du sol. Dedans, on rentre une bille de bois. Au-dessus, ils font des trous et ils mettent de la poudre. Et là, il avait mis un kilo de poudre noire.
Quand il faut en mettre, combien ?
Bah, pour la cascade, on a mis 400 grammes. Et déjà, la voiture, elle est montée à 3 étages, donc c'était...
Vous étiez dedans ?
Ah bah oui.
Au secours. Au secours ! Mais vous êtes, en fait, à la base, vous êtes totalement masochiste, Jean-Claude Lanier.
Bah, non, parce que, en fait, si vous voulez, moi, je suis arrivé dans la cascade avec Rémy Julienne, parce qu'il m'a demandé de faire un film. Je donnais des cours de pilotage aux acteurs.
Mais oui, mais on va parler ça, parce que vous avez, mais écoutez, justement, voilà, vous avez remporté les 24 heures du Mans en 97, hein,
oui.
Parce que, bon, il faut préciser que, au départ, vous aviez vraiment une double vie. Je voudrais savoir pourquoi vous affirmez que un bon pilote ne fera pas forcément un bon cascadeur, et un bon cascadeur ne fera pas forcément un bon pilote.
Je pense que c'est plus facile de devenir cascadeur en étant pilote au départ, parce qu'on a un feeling avec une voiture qui est extraordinaire, on sait à peu près tout faire avec, on sait ce qu'on veut faire, on peut passer entre des trucs qui sont où il y a 2 cm de chaque côté, on peut la mettre en dérapage pendant 80 mètres. C'est, franchement, nous, on est vraiment formaté pour ça. Après, la cascade, ça vient tout seul, on dit, bah voilà...
Ça vient tout seul ?
Oui, un peu. Ça vient tout seul, oui.
Pour celui qui est doué.
Surtout avec, quand on commence à travailler avec Rémy Julienne, qui a quand même été un formidable type que j'ai adoré. Et c'est vrai que, bon,
respecté
malheureusement,
dans le monde entier.
Tout à fait. Il a prouvé au monde entier que les cascadeurs et pilotes français étaient très très bons.
Le 29 novembre 2020, vous étiez devant votre télé pour regarder le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, Jean-Claude Lanier. Bon, vous qui n'avez jamais connu la peur en course, soudain, vous avez été épouvanté en voyant la Formule 1 de Romain Grosjean taper le rail de sécurité à plus de 200 km/h et se transformer en brasier. Alors, avec votre expérience des cascades et des explosions, il paraît que vous êtes mis intérieurement, comme ça, spontanément, à compter. Et vous vous êtes dit, oh là là, faut pas que j'arrive à 30, c'est ça ?
Oui, c'est la vérité, oui.
Et Grosjean est sorti quand vous en étiez à combien ?
28.
Mon Dieu.
Oui, non, j'ai eu très peur pour lui. Je le connais pas personnellement, mais je trouve que c'est un garçon qui a pas eu une bonne voiture pendant les 5 dernières années. Et je trouve que, en plus, elle s'est coupée en deux, elle a pris feu instantanément. Ça n'arrive plus normalement, ça, dans la Formule 1.
Oui.
Et quand j'ai vu le brasier qu'il y avait, surtout qu'il y a quand même 130 kilos d'essence dedans, là, on se dit que c'est pas possible. Alors, avec le halo, ça l'a sauvé parce qu'il est passé en dessous le rail. Mais vu la voiture, il manquait un morceau, il était dedans et ça brûlait comme ça. Je pense que son instinct de survie est énorme et j'étais tellement content de le voir sortir au bout de 28 secondes que je me suis dit, bon là, j'ai vu qu'il secoue un peu les mains, mais ça, c'est normal parce que c'est ce qui est le plus fragile en fait. Les gants, c'est ce qui protège le moins.
D'accord.
Et si vous êtes dans un truc comme ça, c'est un bûcher là.
C'est ça. Il y a 40 ans, ce genre d'accident, on n'en sortait pas vivant ?
Ah non. Bah, moi, j'ai assisté à la mort de Jos Lesser sur le circuit de Rouen-les-Essarts. J'étais juste dans le virage où il s'est sorti. Et il a brûlé dans la voiture. En plus, les châssis étaient en aluminium. Et donc, on ne peut pas arrêter le feu. On ne peut pas. C'était pas possible. Lui, à cette époque-là, ils avaient 200 litres d'essence dans la voiture. Et il est mort sous nos yeux.
Aujourd'hui, il y en a combien ?
Deux
litres d'essence.
Ah, de l'essence, il y en a un peu moins.
Un petit peu moins.
Oui, il y a 100. Bah,
mais ça suffit quand même à faire un brasier.
Oui, complètement.
On s'interrompt un bref instant et on se retrouve tout de suite en compagnie de Jean-Claude Lanier, cascadeur automobile de légende.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Il a été James Bond, De Niro, Matt Damon, même Jackie Chan pour des cascades en voiture improbables et pire que périlleuses. Je reçois Jean-Claude Lanier qui fait paraître Doublure chez Solar Edition. Jean-Claude Lanier, tout le monde n'a pas le bonheur d'avoir bouclé son premier tour du grand circuit des 24 heures du Mans dans la voiture de son père à l'âge de 7 ans. C'était au cours d'un rallye ?
Oui, c'est qu'en fait, à l'époque, les rallyes, c'était un peu familial.
C'est-à-dire qu'on pouvait embarquer un enfant de 7 ans comme passager ?
Oui, mais enfin, c'est... on faisait la liaison entre les épreuves et mon père faisait les épreuves tout seul. Mais comme on arrivait au circuit du Mans, c'était le rallye de Sablé-Solesmes en 53, je m'en rappelle très bien. On a fait le tour du circuit d'abord, après ils nous ont déposé dans les stands et après ils ont fait une course eux. Mais c'est vrai qu'effectivement j'ai connu le circuit très tôt.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors votre père était imprimeur, mais fondu de course automobile et parfois, sur certaines épreuves de rallye dites touristiques, il paraît qu'il embarquait votre mère et vous à l'intérieur de la voiture.
Oui, c'est à cette époque-là c'était ça, oui. Donc on faisait un peu de tourisme.
Mais vous étiez tous les deux à l'arrière ?
Enfin, ma mère devant et moi derrière.
Donc ça veut dire que votre mère, elle aimait les sensations de la vitesse.
Ah oui, complètement, oui.
Elle pilotait aussi ?
Elle a fait des rallyes aussi, oui.
Bon. Vous avez su piloter une voiture presque avant de savoir faire du vélo, donc ?
Bah, pratiquement, oui.
Alors, pour vos premiers rallyes, Jean-Claude Lanier, ce sont, il paraît, les voitures de votre mère que vous avez, je vais même pas dire cassées, je vais dire compilées, comme le faisait César avec ses œuvres, c'est ça ?
Bah, c'est vrai que j'ai eu mon permis le 1er octobre et je suis allé voir un rallye parce que j'étais très copain avec André, Jean-Claude, et je suis allé le voir pour voir comment ça se passait. C'était à Fontainebleau. Et puis, on croit qu'on s'est piloté, en fait, à l'époque, parce qu'on peut mettre les voitures en dérapage et tout.
Ouais.
Et à 3h du matin, je bois pas, hein, mais bon, à 3h du matin, je me suis senti pousser des ailes et je suis arrivé dans une courbe avec un copain. Je dis, tu vois, ça c'est formidable, on peut faire ci, on peut faire ça. En fait, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que j'ai tapé le trottoir qui était assez haut.
Avec la voiture de votre mère.
Avec la voiture de maman.
D'accord.
Donc les deux roues droites se sont pliées sous la voiture. Et me voilà à 50 km de chez moi, en train de faire du stop, en gros. C'est ça. Comment ça ?
Elle vous a reprêté des voitures, votre maman, par la suite ou pas ?
Mon père, je pensais qu'il allait un peu m'engueuler, mais même pas.
Même pas ?
Non, mais il m'a dit un truc, c'est ça, je pense, qui m'a fait progresser. C'est qu'il m'a dit, c'est pas grave, je travaillais avec lui à l'époque. Il m'a dit, qui casse paye.
Alors ensuite, vous avez repris les cours, Jean-Claude Lanier. Il paraît que votre père vous accompagnait absolument partout. Il veillait à la mécanique, il veillait à la logistique, il gérait même votre réveil. Sauf un jour, ou alors, il était absent. L'hôtelier ne vous réveille pas, et pourtant vous aviez un départ de course ce matin-là. Donc vous arrivez en retard au point de départ, vous êtes mis hors course, et du coup, juste pour le fun, mais quelle audace, pour le fun, vous ralliez l'étape Albi-Biarritz à 200 km à l'heure, non-stop, sur les nationales. C'était un autre monde.
Bah, c'est sûr qu'il y avait déjà beaucoup moins de monde. Enfin, que maintenant, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autoroute. Mais c'était à Albi, en fait, on avait fait la course sur le circuit d'Albi la veille. J'ai dormi là-bas, et moi je dormais magnifiquement bien à cette époque. Et mon père était
comme
parti
les
un
jeunes.
Peu... Oui, bah, mon père était parti un peu plus loin pour faire une assistance. Et j'étais 6e au classement général du Tour de France quand même. Hein. J'avais 22 ans, donc ça a été une grosse déception évidemment.
Waouh, être mis hors service pour un mauvais réveil alors qu'on est 6e au classement général du Tour de France, ouais. Zut alors, ça agace.
Ça agace un peu, et c'est vrai qu'on est rentré très vite sur Biarritz, et c'est vrai que c'est complètement une autre époque. Parce qu'à l'époque...
200 à l'heure non-stop sur les nationales.
Ah oui, bah oui, c'est ce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était une Porsche, ça roulait vite. Hein, donc, et c'est vrai que le gendarme qui s'est arrêté à côté de moi dans le village où on est passé après, il m'a dit, vous conduisez vraiment bien. Vous respectez...
Un CRS hein, qui était à moto et qui, ah, vous bon, avait, qui,
oui,
essayait de vous...
Non, pas du tout, il m'a suivi parce qu'il, bon, il était assez loin dans la ligne, oui, droite. Mais après, au feu rouge, il s'est mis à côté de moi, il dit, franchement, vous respectez bien le code de la route. C'est formidable de dire ça.
Vous vous rendez compte, à 200 à l'heure, aujourd'hui, vous vous retrouvez au poste. Hein.
Ah bah oui, direct, sans voiture, sans rien.
Sans plus rien, sans plus de permis.
Non, sans plus de permis.
Bon, hors circuit, un jour, sur l'autoroute A9, vous avez quand même franchi les 231 km/h. Et là, c'était pas pour rallier une étape. Mais comment un cascadeur professionnel se débrouille-t-il pour échapper justement au retrait de permis ?
Bah écoutez, ça c'était un petit concours de circonstances parce qu'en fait, je roulais un peu plus vite avant le radar. Et il était 11h du soir, je me dis, il ne peut pas y avoir de radar à cet endroit-là, quand même, c'est pas possible. Et puis d'un seul coup, j'ai vu la voiture de police qui démarrait. Bon, je me suis dit, bon, cette vitesse-là, il n'est pas prêt de me rattraper tout de suite. Et en fait, je suis arrivé au péage, et même avec le péage, avec le télépéage, en fait, il y avait un peu de monde à 11h du soir, ça n'arrive jamais.
Ouais.
Et ils sont arrivés là, ils m'ont rattrapé, ils ont sorti les flingues de Clint Eastwood.
C'est... Ah, carrément ?
Ah oui, oui.
Ah bah oui, 231 km/h. Ouais, alors, qu'est-ce que vous leur avez expliqué ?
D'abord, ils m'ont dit, les mains sur le tableau de bord, j'étais avec mon mécano, et alors lui qui tremblait comme de funeste dans la grande vadrouille, interrogé par les felles gendarmes, et je lui dis, attendez, je suis pas Al Capone. Donc ils m'ont emmené à la gendarmerie.
Vous leur avez dit que vous étiez pilote.
J'étais pilote.
Professionnel.
Oui, professionnel. Ils me demandaient pourquoi je venais. Ben, je dis pour faire la course d'ici, en fait.
Et ils vous ont dit que vous l'avez commencé un peu tôt sur l'autoroute, la course.
Non. Et ils ont été passionnés par ce que je faisais, en fait. Donc, ils ont mis un peu tout ça en dessous de la pile. Et puis, le lendemain matin, il m'a appelé, il m'a dit... On est devenus très vite copains, on est toujours copains d'ailleurs.
Ah, c'est drôle ça.
Oui, c'est drôle, oui. Et il me dit, tu passes à la gendarmerie, je te signale que tu m'as retiré mon permis quand même. Là.
Donc, je ne peux pas rouler.
Oui, il me dit, non, mais ça ne fait rien, c'est moi qui l'ai. Donc, je l'ai emmené sur le circuit, il était ravi.
Oui.
Et plus tard, bien après, c'est-à-dire 12 ans après, je l'ai emmené sur ce circuit avec une Aston Martin de course.
Et là, vous avez roulé ensemble à combien ?
Ah bah là, si vous voulez, c'est un circuit qui est un peu très... Enfin, qui est vallonné et qui fait un peu peur. Et là, je lui ai fait payer un peu le... Je lui ai fait un peu payer les arrestations.
Jean-Claude Lagny, est-ce qu'il existe des filières, ou peut-être des écoles, je ne sais pas, pour devenir cascadeur automobile ?
Alors, je travaille avec des copains à moi qui font ça. C'est des gens qui travaillent avec moi qui commencent à faire ça parce que le problème de la
cascade... Donc ça y est, en France, il y a des écoles pour ça.
Moi, j'en connais au moins une. C'est-à-dire que le problème de l'école de cascade voiture, c'est qu'on casse des voitures. Donc ça coûte très cher tout de suite. Et là, maintenant, on a fait un truc avec la famille Bourg. Ils s'appellent Bourg tous les deux, le père et le fils. Et on emmène les gens dans les voitures, on essaye de leur faire faire du deux roues, on essaye de leur faire faire des dérapages. Et c'est des stages qui durent 3 jours.
Donc vous participez à ces stages ?
Je vais
vous
avec eux, oui.
Partie prenante ?
Oui.
Bon, il n'y a aucune femme dans cette discipline. Les femmes ont un instinct de préservation plus développé que celui des hommes ?
C'est ce que je pense, en fait.
C'est ce que je pense.
Bah oui, parce qu'il n'y en a pas en Formule 1. Et pourtant, il y en a qui ont du talent. Hein. Moi, j'ai été très, très surpris par Michel Mouton à l'époque, qui était vraiment une formidable pilote. Parce qu'elle rivalisait avec les hommes,
hein,
il n'y a pas de problème, la fillette championne du monde quand même, ça n'est plus arrivé. J'ai roulé en course avec Marie-Claude Beaumont, qui était aussi une fille formidable, et le reste, non, les cascades, j'en prends pas pour faire des grosses cascades en fait.
Oui.
Pour du pilotage, il y en a qui savent bien conduire, mais pour les cascades, j'ai peur qu'elles se fassent peur.
Alors, Jean-Claude Lannet, la toute première fois qu'on vous a sollicité pour une cascade en voiture, alors que cascadeur n'était pas votre vocation, vous étiez pilote, c'était dans quel contexte ? Sur quel film ? Pour doubler qui ?
Alors, c'était pour doubler Jacques Dutronc. C'était en 1976 ou 17, un petit truc là. Et donc, j'avais fait une course à Albi. Et Rémi Julien m'avait dit, est-ce que tu veux tourner avec nous dans un film qui s'appelle Sale Rêveur, avec Jacques Dutronc et Léa Massari. Et j'ai dit oui, on peut, ouais, il n'y a pas de problème, ça me plaît. Alors il y avait du pilotage, après il y avait un saut à faire dans un truc en flamme, c'était pas très méchant.
Il y avait des tonneaux à réaliser.
Oui, il y avait un tonneau à réaliser.
Vous aviez déjà fait des tonneaux ? Vous étiez pilote professionnel. Un pilote professionnel, il ne s'amuse pas à faire des tonneaux.
Non, des fois, ça cartonne un peu, mais c'est des tonneaux, non, on en fait rarement. D'ailleurs, heureusement, parce que sinon, ça ne va pas.
Mais oui. Alors, comment ça s'est passé ?
Déjà, en fait, Rémi n'était pas arrivé quand je suis arrivé sur le tournage. Et j'étais avec un de mes copains aussi qui courait un F1, qui roulait avec moi dans ce film. Et le metteur en scène dit, je voudrais que, qui était Jacques Dutronc aussi, je voudrais que la voiture elle fasse un tonneau comme ça, machin. Mais nous, on ne savait même pas comment le faire, en fait.
Incroyable.
Donc, mon copain arrivait derrière moi, il me tapait un grand coup dans l'aile arrière droite pour me faire partir en tonneau. Il n'arrivait pas, quoi. Rémi est arrivé, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais on ne sait pas, nous.
Extraordinaire.
Oui, alors il dit, bon, il faut mettre un petit tremplin, vous allez voir, il n'y a plus besoin de toucher et tout. Et c'est vrai, en fait, vous arrivez sur le tremplin, quand vous êtes en haut du tremplin, vous braquez fort.
Et hop, ça part en vrille, voilà. Et il y a les tonneaux qui arrivent.
Voilà.
Incroyable.
Non, bon. En l'occurrence, c'était un sol, hein, parce que c'était le premier, ça n'allait pas très vite, c'était dans la terre. Donc,
Alors, il paraît que vous êtes retrouvé la tête en bas. C'était pas évident pour vous désangler et sortir de la voiture.
Non, effectivement, non, mais je me suis cogné un peu la tête quand j'ai enlevé la ceinture. Oui.
Le métier qui rentre. Oui. Bon, Jean-Claude Lanier, vous avez travaillé 9 ans avec le cascadeur de légende Rémi Julien avant de créer votre propre structure, Ciné Cascade, à présent, bien sûr, mondialement connue. Mais avant d'évoquer tout ça, on va rejoindre Steve McQueen sur le tournage de son film Le Mans, au casting duquel vous étiez à peine 23 ans. A tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois un cascadeur de réputation internationale, Jean-Claude Lanier, qui fait paraître aux éditions Solar Doublure, ma vie de pilote et de cascadeur de cinéma. Jean-Claude Lanier, nous sommes en septembre 1970, en France, et le tournage d'un film fait couler vraiment beaucoup, beaucoup d'encre. C'est le film de Steve McQueen, baptisé Le Mans. Steve McQueen, fou de compétition automobile et très bon pilote, souhaite à la fois réaliser le film et participer à la course, bien que les assurances ne l'entendent pas tout à fait ainsi. Bon, vous allez nous raconter tout ça. Vous, en septembre 70, vous fêtez vos 23 ans, mais vous êtes au casting de ce film hallucinant. Comment ça démarre d'ailleurs? Comment vous êtes-vous retrouvé sur le circuit du Mans face à McQueen?
Parce que déjà, je venais de faire les 24 heures. Donc,
en vrai pilote.
Et puis j'avais des copains qui tournaient, en fait. Au casting, c'est un bien grand mot, si vous voulez. On était un peu déjà des doublures parce que...
Mais enfin, on vous voit dans le film, on vous voit piloter.
On voit ma voiture, tourner votre
voiture sur le circuit. Oui. Une Porsche 911. Une Porsche,
oui, c'est ça, oui.
Ouais.
Et puis bon, il cherchait des gens. Il venait de se séparer de son metteur en scène. Donc, ça a été très très relax. C'était un garçon que j'adorais, moi, forcément. Steve McQueen, c'est quand même la référence absolue.
Voilà, absolument. Mais dans la vie, il était infiniment sympathique.
Ah, il était un sympa. Alors, après, je ne sais pas dans la vie normale, mais je sais que avec nous, il était très sympathique. Avec les gens avec qui il travaille, il était très très, très sympathique.
Sur ce tournage, autour de Steve McQueen, il y avait donc Jackie X, il y avait Pescarolo, Jabouille, Beltoise.
Oui.
Toutes les grandes stars des circuits de l'époque étaient là.
Tout à fait.
Bon, je voudrais savoir, Steve McQueen, tout le monde, bien sûr, sait qu'il était fou de course automobile, mais il était réellement bon sur le circuit. Il aurait pu faire véritablement une carrière de coureur automobile?
Moi, j'ai vu ses résultats. Il a quand même fait deuxième aux 12 heures de Sebring dans une Porsche 908 à l'époque, avec une jambe dans le plâtre. Donc, ils ont perdu de très peu dans les tout derniers tours. Donc, déjà, quand on fait ça avec un prototype Porsche, déjà, c'est qu'on sait conduire. Je pense qu'il aurait fait un bon pilote maintenant. Dire qu'il aurait fait de la F1, c'est autre chose. Mais il conduisait très très bien. Donc,
il faut quoi de plus pour faire de la F1, Jean-Claude Lanier?
Alors là, c'est... comment dire, il faut jouer au 421, là, si vous voulez. Il faut trouver un sponsor maintenant. Le talent pur ne compte plus maintenant, vraiment.
Talent pur ne compte plus vraiment aujourd'hui?
Non. La voiture fait 80% du travail. Donc, il y a des jeunes qui sont très très doués, mais qui arriveront jamais en F1. D'abord, il y a que 20 pilotes, déjà. Regardez l'exemple de Romain Grosjean qui a roulé avec la Lotus. Il faisait des podiums. Il était en équipe avec Raikkonen. Il a fait des perfs super. Et dès qu'il est passé une voiture qui marche pas, ils sont les 4 derniers. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Hein.
Alors, j'en reviens à vous et à ce film dirigé par Steve McQueen. D'ailleurs, plus qu'un film, Le Mans était en fait un documentaire sur le monde de la course automobile. Et c'était votre toute première expérience devant les caméras. Vous étiez si jeune, 23 ans. Vous avez finalement démarré en douceur pour quelqu'un dont la légende sera, si personne ne peut le faire, Jean-Claude Lanier le fera. Parce que dans ce film, vous ne faites pas de cascade.
Non.
Dans ce film, vous êtes un pilote pur.
Oui, complètement, oui. Mais si vous voulez, ça aussi c'est quand même relatif, parce que les prises de vue sont très brèves, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde tout le temps. Donc on fait un passage sur 200 mètres, et après on revient, on va dans la ligne droite, on fait 500 mètres. Et puis là, ils prenaient surtout quand même les gros prototypes qui roulaient très vite, hein, parce que ça prenait déjà 380, ça. Donc les gros prototypes, ils les filmaient comme ils pouvaient. Parce que la voiture qu'il avait, c'était justement une Porsche 908, et elle avait la caméra juste dans le nez.
Oui.
Et il faisait la course, hein, la voiture faisait la course. Il s'arrêtait, il changeait la pellicule, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... C'était que de la pellicule. Il changeait, il repartait, il roulait tout le temps.
Alors que les assurances ne voulaient pas.
Mais lui, alors, la légende dit qu'en fait, de nuit, il aurait fait un relais dans la voiture.
C'est-à-dire ?
Ben, il serait monté faire un relais, c'est-à-dire faire 12 tours. On faisait, avec ces voitures-là, je crois qu'on faisait 12, 13, 14 tours maximum.
Oui.
Bon, c'était moins contrôlé que maintenant, parce que maintenant, quand on fait les 24 heures du monde, on a un bracelet avec un bip pour savoir si c'est vraiment vous, quoi.
Mais connaissant la réputation de rebelle de Steve McQueen, il est tout à fait plausible qu'il ait conduit véritablement de nuit, n'est-ce pas ?
Oui, complètement.
Vous le pensez ?
Oui, moi je pense, oui. Mais c'est bien, c'est bien.
Mais vous n'imaginiez pas du tout, à 23 ans, intégrer, pénétrer le monde du cinéma, puisque vous avez fait toute votre carrière ensuite au cinéma et jusqu'à Hollywood, on va raconter ça, c'est prodigieux. À cette époque-là, vous imaginiez être simplement pilote, c'est ça ?
Oui, complètement. Puis de toute façon, je me rendais pas trop compte de ce qu'on faisait, en fait. Hein. Tourner avec Steve McQueen, c'était super. Mais vous savez, les prises de vue dans le cinéma pour les actions, c'est, comme je vous dis, c'est très bref. Donc, on le voyait, il donnait le départ. Et puis, c'était une époque où, à mon avis, il n'était pas très en forme déjà. Parce qu'il s'était déjà un peu. Pas, comment dirais-je, il n'était pas malade, mais il venait de se séparer de son metteur en scène, il était un peu stressé.
Oui.
Et il a fini son film comme ça. Moi, je l'ai vu pas en forme, en fait. Hein. Mmh.
Mais le film, lui, est culte.
Ah bah oui, le film est culte, tout à fait.
On retrouve tout de suite mon invité, Jean-Claude Lanier, cascadeur de réputation internationale. Bon, alors, vous l'avez compris, on va écouter Benjamin Biolay en duo avec Adé. Le titre de la chanson, Parc fermé.
Parc fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame.
Oui.
Tant pis je reste sur le macadam. Pavé. C'est presque rien, mais j'en fais tout un drame. Yeah, yeah.
Benjamin Biolay vient de se balader dans ce parc fermé en compagnie de Adé.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Sa réputation, la voici. Si une scène est trop dangereuse ou impossible à faire, Jean-Claude Lanier la fera. Je reçois un cascadeur automobile qui est une légende dans le monde entier, Jean-Claude Lanier. Cher Jean-Claude, on pourrait intituler ce chapitre Robert De Niro, Frankenheimer et moi. Alors voilà, depuis le début de votre histoire, vos deux passions, la course automobile et la cascade, elles se sont toujours croisées. Et d'ailleurs, je précise que vous avez créé votre propre société Ciné-Cascade en 85. Mais, avoir remporté les 24 heures du Mans en juin 97, ça va vraiment faire toute la différence à l'international. Car, voilà, un soir de novembre, l'assistant d'un réalisateur américain multi-oscarisé, John Frankenheimer, une légende d'Hollywood, vous téléphone. Vous nous racontez la suite ?
Oui, il me téléphone en début d'après-midi et il me dit « Faut que tu rencontres John demain sur le port de Nice à 6h ». J'ai dit « Mais attends, mais là je... »
Le lendemain matin, 6h, à
oui,
l'aube.
Oui. J'ai dit « Mais là, je partais faire l'ouverture des pistes.
Ouais. »
Donc,
je suis de ski, vous voulez dire ?
Passionné de ski, bien
ah,
sûr.
Ah, d'accord.
Donc, je fais du ski en compétition. Et j'ai dit « Non, mais c'est pas possible. » Mais si, mais je croyais que c'était une blague, en fait. Je pensais même pas que c'était le premier assistant.
Ouais.
Il dit « Si, je te promets. » Il travaillait avec une équipe à l'époque avec qui il s'entendait pas.
Oui.
C'est pour ça que quand je suis arrivé, il m'a dit « Est-ce que tu es prêt à venir lundi ?»
Démarrer le lundi.
Oui, et on s'est retrouvé le lundi. Bon, c'est vrai que le lundi, ça a été un peu la mise en place. Hein. Ça a pas été. On n'a pas tourné tout de suite. On a tourné plutôt le mardi.
Mais il faut expliquer que quand même, les séquences qu'il fallait tourner, c'était des courses-poursuites à contresens sur des autoroutes, des tonneaux dans le tunnel du Châtelet, des gymkhana sur le pont de Garigliano, des explosions, des voltiges sur la corniche de Nice. Voilà. Bref, 15 minutes de folie sur un écran. Voilà.
Oui. On a commencé par Nice d'ailleurs, puisque en fait ils tournaient là-bas. C'était début décembre et on a terminé pour Noël. Et après on a travaillé à Paris. Donc.
Mais alors comment ça se passe ? On reprend tout à zéro, c'est-à-dire que on ne se préoccupe absolument pas de ce que l'équipe de cascadeurs précédente a prévu et on rebalise tout soi-même.
Oui, bah oui, oui, on est obligé. On est obligé, bah donc. Moi, je suis venu avec mes pilotes. Hein. Déjà, j'avais pris Jean-Pierre Jarier, qui a été un grand pilote de F1, parce que lui,
carrément
au moins,
des pilotes de Formule 1.
Ah oui, bah oui, oui, il faut. Non, on est obligé là, parce que quand il faut trouver 30 personnes, il faut que vous trouviez des gens qui sont en forme et qui conduisent bien. Et en fait, moi, si vous voulez, la moitié de l'équipe est partie, l'autre est restée avec moi. Parce que là, c'est 12 heures par jour, les Américains. C'est pas. On commence à 9h, on fait la pause à midi.
Oui, oui, oui. Pas du tout. C'est pas à la française.
Non, pas du tout.
Alors, parlons des acteurs, Jean-Claude Lanier. Robert De Niro et Jean Reno étaient, pour ces cascades, ils étaient à l'intérieur. Enfin, on va dire pour les courses-poursuites, à l'intérieur des véhicules. Mais ce n'est pas eux qui conduisaient. J'aimerais que vous nous expliquiez le stratagème du faux volant et du tableau de bord factice.
Alors, il y avait deux choses. On avait pris des voitures avec conduite à droite, avec un tout petit volant,
ouais.
Avec le tableau de bord, mais refait pour la conduite à gauche, avec un faux volant.
Ouais.
Ça nous a permis de rouler très vite et de dire bon, ben voilà.
Donc, c'est-à-dire que De Niro était à gauche. Normalement, il tenait un volant dont on imaginait que ce volant permettait vraiment de conduire la voiture. Pas du tout, c'était bidon. Vous, à côté. À droite, vous aviez le vrai volant, et entre vous deux, il y avait des caméras qui filmaient De Niro.
Oui, oui, tout à fait. Oui. Le volant est factice, mais bon, ça permet de le voir lui en conduisant. On voit bien que des fois, il est un petit peu palo, mais tellement sympa. Donc,
Vous dites qu'il est un peu palo parce qu'il paraît qu'il avait peur en voiture, Robert De Niro.
C'est Robert Niro, il a un restaurant italien à New York et il prend des taxis, donc il roule à 50. Donc c'est là que, là, 150 dans le tunnel des Halles, ça l'a surpris. Et alors, John a été exceptionnel parce qu'il lui a dit, il a fait monter sa femme avec moi.
Oui.
Il dit, Jean-Claude, emmène ma femme avec moi et pas le plus vite possible. Donc on a fait un tour à fond la caisse dans le tunnel des Halles.
Oui.
Et donc, sa femme est descendue. Et John a dit à Bob, parce qu'on l'appelait Bob.
De Niro,
et
oui.
Il dit, tu vois, Bob, si ma femme peut le faire, toi, tu peux le faire.
Oh, le voyou. Ah, le voyou. Bon, alors, la course-poursuite qui vous emmène sur l'autoroute, vraiment, elle était réglée comme un balai. Vous aviez engagé une centaine de vrais pilotes, c'est
ouais,
ça
ouais.
Une centaine de vrais pilotes de course pour respecter donc la scénographie des voitures à contresens. Tout ça vraiment à très très grande vitesse. Quelle est l'émotion vraiment la plus forte qui reste comme ça dans vos souvenirs?
L'émotion surtout, c'est qu'il faut que ceux qui viennent en face ne fassent pas d'erreur. On a fait une journée de répète, parce que les gens, ils roulaient à 60 km/h. Ils étaient espacés comme une grille de Formule 1, si vous voulez.
Oui. Et c'est-à-dire, comme une grille de Formule 1, ça fait combien?
Ils sont décalés comme ça. Je pense qu'il y avait 60 voitures qui roulaient, et nous, on arrivait en face. Mais en fait, il fallait qu'ils roulent à la même vitesse, laisser les mêmes espaces.
Tout le temps.
Et surtout, si vous voyez qu'il ne fallait pas qu'ils aient peur, c'est nous qui faisions l'action, c'était pas eux.
C'est ça.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film, mais vous voyez comment c'est. On passe à travers les voitures, on passe derrière, devant, on provoque un accident avec un camion qui se met en travers.
Mais il faut répéter combien de temps pour une scène comme ça?
Pour ce film-là, on a répété la veille, on a répété 2 heures.
C'est très peu de répétition.
C'est très peu, mais en fait, c'est que du pilotage, hein. C'est pas. Il y avait un peu d'accidents, mais des trucs très simples. Rien de très simple. Mais quand on doublait le dernier, hop, il se mettait en travers avec un camion, et l'autre qui rentrait dedans. Voilà, c'était. Mais bon, c'était.
Vous n'auriez plus les autorisations pour tourner des scènes pareilles aujourd'hui, comme ça, de course-poursuite à contresens sur une portion d'autoroute, avec 100 pilotes de course.
Je sais pas. Je sais que l'année dernière, il y a 2 ans, je suis allé une journée sur le tournage de Tom Cruise, sur Mission Impossible.
Oui.
Bon, effectivement, là, c'est pas du tout pareil, en fait. Lui, il veut absolument conduire. Donc,
Il paraît qu'il conduit très bien.
Ah oui, il conduit très bien. Il conduit très bien. Mais après, vous savez que c'est une question d'assurance. Parce que si lui, il se fait mal, l'assurance, elle coule.
Alors, ça veut dire que comme c'est une question d'assurance, il y a moins de risques pris. Donc, tout le monde va plus lentement, c'est ça?
Oui.
Et on réaccélère après, en post-prod.
Oui, tout à fait.
La presse américaine, et particulièrement le New York Times, a beaucoup, beaucoup parlé de vous à la sortie de Running. Donc, Hollywood s'est intéressé à vous de très près. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé à doubler Matt Damon, alias Jason Bourne, dans une poursuite folle en mini pour le film La mémoire dans la peau.
Oui,
c'est parce qu'ils avaient vu Running.
Oui. C'était Doug Liman qui était le metteur en scène, qui est maintenant devenu producteur, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps à Los Angeles. Et il a déclaré, il n'y a pas que moi là-dedans, il a déclaré que les pilotes français, enfin les cascadeurs français étaient les meilleurs au monde. Ça fait toujours plaisir. Ça a été extraordinaire avec Matt Damon, parce que d'abord je l'ai revu il n'y a pas très longtemps à la présentation du Mans 66.
Oui.
Et ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas vu, et il était très très content de me voir, et moi aussi bien entendu. Donc je lui ai appris un peu à conduire. Il a fait quelques scènes, parce qu'il faut qu'on le voit un peu en voiture.
Oui.
Mais tout ce qui a été fait pour la poursuite, par exemple le sens inverse sur les quais de la Seine,
oui.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là, c'est pas...
Non. Effectivement. Voilà. Et si on se vautre, on tombe dans la Seine.
Oui, on peut.
On peut.
Non, moi j'ai surtout fait la chorégraphie de ça, parce que je ne peux pas à la fois et conduire et faire la chorégraphie. Donc je dis, les caméras, on va les mettre là. Et il faut aussi faire des répètes, parce que c'est pas l'autoroute là. Il y a 2 voies, en plus... On a le droit de 8h du matin à midi,
oui.
Le dimanche,
oui.
Et la plupart du temps, il a plu. Alors, plus il pleut, plus c'est compliqué, évidemment.
Bien sûr.
Donc, il faut qu'on attende qu'au moins les essuie-glaces ne marchent pas pour faire la poursuite. Mais c'est vrai que à mon avis, c'était plus compliqué que Ronin, en fait.
Alors, la mémoire dans la peau, bah, effectivement, vous avez valu la plus belle récompense que décerne Hollywood aux cascadeurs, le Taurus World Stunt Award. Vraiment l'équivalent d'un Oscar. Et pourtant, cette année-là, vous étiez en compétition, Jean-Claude Lanier, avec un James Bond, Meurt un autre jour. Mais c'est vous qui avez remporté l'Oscar de la cascade. Allez, on vous retrouve tout de suite dans une poignée de secondes.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Quand on pense à Jason Bourne, on pense à Matt Damon. Mais dans les scènes de cascade extrêmes en voiture, eh bien c'est mon invité qui est filmé, Jean-Claude Lanier, l'empereur des cascadeurs. Jean-Claude Lanier, on va oublier Hollywood, qui vous a souvent sollicité, hein, malgré les syndicats américains ultra puissants qui placent d'abord des Américains, et on va s'intéresser à la France. Vous avez doublé Depardieu, vous avez doublé Danny Boone, Jean Reno, Nicolas Duvauchel pour Balles perdues sur Netflix, avec plus de 100 millions de vues d'ailleurs, je le précise. Et vous êtes Celui qui a pensé et réglé l'accident de moto sidérant de Jean Dujardin dans le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs. Voilà, c'était vraiment une scène primordiale dans la dramaturgie du film. Vous pouvez nous en révéler les secrets?
Déjà, il y a un plan séquence. On voit Jean Dujardin qui sort un peu fatigué de la boîte de nuit. Et le plan séquence, ça va jusqu'au scooter qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Et qui passe au feu vert, il faut bien le dire. Et c'est un camion qui arrive, qui lui rentre dedans et qui passe au feu rouge. Alors pour ça, on avait fait des essais avec des scooters trois roues qu'on dirigeait mécaniquement, mais qui roulaient quand même à une vitesse normale. Et en fait, c'est pas ce que voulait Guillaume.
Oui.
Guillaume est très précis dans ce qu'il veut. Il voulait vraiment que ça soit un gros carton. Et alors quand c'est comme ça, vous filmez d'abord le scooter de derrière. Après, vous filmez de face le camion qui arrive.
Oui.
Et après, vous faites un mix de ça. Ça, c'est des VFX.
Oui.
Voilà. Puisqu'on pouvait mettre personne sur le scooter, on est bien d'accord. Là, c'était...
Nous sommes d'accord.
Voilà. Donc, et c'est en fait ça. Après, le VFX est dans le montage, font l'accident sans que, avec le scooter arrêté.
D'accord, d'accord. Mais la scène, elle est tellement... elle est sidérante, quoi.
Ah oui,
à l'écran, la sensation du choc, c'est prodigieux. Et j'ai presque envie de dire plus que dans les habituels films d'action.
Oui, parce que c'est vrai que là, on ne s'y attend pas du tout, cette histoire. Parce que là,
il y a une montée en puissance, heureuse, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Quand soudain arrive le drame absolu.
Oui, le drame absolu.
Alors, avec Guillaume Canet, effectivement, vous avez travaillé sur Ne le dis à personne, un thriller porté par François Cluzet, pour lequel, un 15 août, le périphérique a été fermé dans les deux sens, entre la porte de Clichy et la porte de Clignancourt. Et alors là, quel était le défi, Jean-Claude Lanier?
Alors, en fait, là, c'est. Cluzet qui s'échappe parce qu'il est poursuivi par la police parce qu'on pense que c'est lui qui a tué en fait, et il arrive sur le périph parce qu'il s'échappe, et en arrivant sur le périph, on a fait passer, c'était des voitures à nous évidemment, hein. Elles passaient dans le sens sur le périphérique intérieur, et lui, c'est lui qui traverse à pied le périph. Donc
vous l'avez fait répéter comment, Cluzet?
Non, mais en fait, moi je le connais bien évidemment, et il est très confiant. Alors effectivement, comme c'est des pilotes qui conduisent, ils sont prêts à tout arrêter, à tout stopper.
Bien
tout
évidemment,
voilà.
Mais tout de même, il faut s'élancer.
Oui, il faut s'élancer. Bah,
il faut du cran, hein.
Oui, il faut bien sûr.
Il n'était pas doublé.
Non, il a été doublé.
Donc il traverse un premier tronçon, oui. Un deuxième, ça circule à toute allure, c'est affolant, et c'est vraiment lui qui court au milieu de ce bordel inouï.
Oui, ça fout un beau bordel, c'est vrai. Mais c'était bien vu comme scène. Alors, la première fois, il traverse, lui. Et effectivement, il arrive sur le milieu. Les flics qui suivent derrière ne peuvent pas traverser parce que c'est dangereux. Et après, il repart pour traverser. Et c'est là qu'il provoque un gros carton.
Oui.
Et je sais pas, on a vu quoi, je sais pas, une dizaine de voitures, motos, tout ça, qui sont embrigués les uns dans les autres.
Et alors, Guillaume Canet dit qu'il fallait absolument réussir en une seule prise.
Oui.
Ah
oui.
Une seule prise.
Oui.
Mais c'est rare de devoir filmer un carambolage avec un acteur qui court au milieu, en une seule prise.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, là, sur le périphérique, on n'avait pas tellement le choix. On est rentré à 3h du matin sur le périph, on a commencé à faire des répètes, et puis fallait qu'on parte à 6h, donc, enfin 18h. Et on a débordé jusqu'à 20h, parce qu'après, il faut nettoyer. Et on n'a pas le temps de faire autre chose. Alors,
et après, il fait nuit. Alors, comme la scène est en plein jour...
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait quand même des répètes avec les gens qui roulent.
Oui.
Donc, sur la voie du périphérique intérieur, il provoque un accident. Et une fois qu'il est passé, sur le terre-plein, il en provoque un deuxième. Mais il fallait que ça se fasse tout en même temps.
Oui, d'une manière très fluide.
Voilà. Donc, on a fait la dernière répète et j'ai vu que ça n'allait pas parce que le premier accident sur le périphérique intérieur était trop tard.
Oui.
Il fallait qu'on recule les gens qui faisaient l'accident.
Alors, quelle décision avez-vous prise?
Ah bah, quand on a dit moteur, j'ai dit on stoppe parce que là, ça ne va pas être beau.
Ah oui, vous êtes passé sur la voie de Guillaume Canet et vous avez dit on arrête tout.
On arrête tout. Donc j'ai reculé les trois voitures qui faisaient l'accident sur le périphérique intérieur, je les ai reculées de 30 mètres. Et ce qui fait que quand l'accident a eu lieu, L'accident a eu lieu juste quand Cluzet traversait.
C'est ça, tout s'est emboîté. Ouais, ouais. Mais pour Cluzet, je le redis, il faut quand même du cran hein, pour s'élancer dans une scène pareille. Ouais. Alors Jean-Claude Lagnier, vous avez entraîné vos deux fils qui sont cascadeurs. Vous leur déléguez des tournages?
Oui, oui, ouais. Oui, un peu, oui.
Un, ouais. Peu. Un peu, dites-vous.
Oui, un peu, oui.
Ouais, bah, un peu, juste un peu.
Non, mais juste un peu, mais ils se débrouillent tout seuls. Donc,
Mais vous avez quand même fait très fort quand vous avez convaincu votre fils Jérémy, qui avait à peine 4 ans. Vous l'avez convaincu de se jeter à l'eau pour éteindre l'épaule et le bras de son vêtement en feu pour un tournage de film. Mais c'est hallucinant d'imposer ça à un enfant d'à peine 4 ans.
Oui, c'est parce que...
C'est-à-dire que vous aviez mis le feu à ses vêtements, oui. Et le pauvre chou devait plonger dans l'eau.
Oui, ben oui, oui.
Il l'a fait.
Il l'a fait. C'était un peu compliqué. D'abord, c'était en Tchéquie, déjà, c'est pas à côté. C'était de nuit.
Non.
Et, oui, et puis il faisait
et
froid.
Et la maman, elle était d'accord?
Bah,
et lui?
Bah, lui, c'est, au début, ça l'a amusé. Et puis, en fait, quand il a vu le feu, on l'avait appuyé, on l'a préparé. D'abord, une petite combinaison pour qu'il tombe dans l'eau parce qu'il faisait froid. Et on lui met le feu au bras. Il me regarde, il me fait « Je veux plus le faire. » Et moi, je travaille avec une équipe de VFX qui est...
Ouais, alors il y a 40 techniciens sur un plateau de cinéma qui dépendent, en fait, de l'humeur d'un petit bout de chou de 4 ans qui dit « Non, c'est fini. »
Oui, c'était... Alors, moi, je travaille avec l'équipe SFX de Georges de Métro, qui est un vieux de la vieille comme moi, et qui, en fait... A mis du feu sur son doigt avec du gel.
Oui.
On lui montre en tout cas, mais c'est du faux feu. Et
c'est du faux feu. Mais il aurait pu se brûler les joues tout de même avec les flammes sur l'épaule.
On lui avait mis du gel protecteur quand même, ça marchera très bien. Puis si on veut si on veut commencer une carrière, il faut commencer comme ça.
Oui, mais avait-il envie? Alors là, il n'avait pas le choix. Hein.
Non, mais après, quand il a vu du faux feu, ça a été. Il a dit bon, j'y vais. Donc, action.
Oui.
Il part en courant avec la main comme ça, avec tout ça qui est en feu. Et il tombe dans un petit bassin.
Oui.
Et il sort en pleurant. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, j'ai perdu mon chausson. En fait, c'était pour ça qu'il pleurait.
Mais quel amour, mon Dieu. Incroyable. Bon, on retrouve tout de suite Jean-Claude Lagnier, cascadeur professionnel. Et on voit comment vous avez passé le flambeau à vos enfants. À tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Jean-Claude Lagnier, dans l'escalier qui mène au bureau de votre production Ciné Cascade, sont fixés au mur, paraît-il, les affiches des films qui vous doivent leur scène de poursuite et de cascade les plus phénoménales, comme La mémoire dans la peau, Running, 36 quai des Orfèvres, Les rivières pourpres, Dangereusement vôtre, James Bond, Un homme et une femme 20 ans déjà, Astérix aux Jeux Olympiques, Le Mans avec Steve McQueen, Espion amateur avec Jackie Chan, et puis aussi des photos actuelles avec La Nouvelle Garde, Balles perdues par exemple, que vous avez tourné pour Netflix. Mais quand on parvient ensuite dans cette grande salle qui vous sert de bureau, là sont exposées des pièces, des morceaux de voiture assez étonnants. Qu'est-ce qui est le plus précieux pour vous? À quoi tenez-vous le plus?
Moi, je pense que moi, je suis quand même un admirateur d'Alain Prost que je connais. Et j'ai roulé avec son fils en GT. Et puis, j'ai pas voulu que toutes les voitures qui ont été vendues à la vente de sa société partent ailleurs. Donc, j'en ai acheté une qui est
une Formule 1.
Une Formule 1, oui. Qui est un châssis numéro 5.
Avec laquelle il a couru quelle course?
Ah ben lui, il n'a pas couru dans cette voiture-là. Lui, il était patron de la boîte, mais il ne roulait plus à l'époque déjà.
Oui.
Mais ça, c'est vraiment une pièce de musée, en fait. Donc, elle est sur une estrade. Et puis, en fait, le moteur, il est dans mon bureau.
Non.
Oui. Il est dans mon bureau. À l'époque, c'était un V10 Peugeot. Et... on a fait une table en verre dessus, c'est-à-dire que vous voyez tous les cylindres, enfin tous les cornets d'aspiration du moteur qui sont là.
C'est de la mécanique virtuose.
Ah oui, c'est formidable. C'est formidable. Et ce moteur est tout neuf, en fait. Donc c'est amusant. Parce qu'après, ils ont changé, ils ont pris un autre moteur. Mais ce moteur, c'est tellement magnifique, cette pièce-là, que c'est complètement génial, quoi.
Que conseillez-vous à ceux qui rêvent d'une carrière de cascadeur? Vous nous avez dit au début de cette conversation qu'il existait une école en France de cascade automobile, mais les qualités, on s'en doute un petit peu, Mais celles auxquelles on ne pense pas forcément pour faire ce métier, et surtout pour durer dans ce métier. Parce que cascadeur à 25-28 ans, d'accord, mais être toujours l'empereur des cascadeurs à 60 ans, c'est une autre histoire.
Oui, ça qu'on supporte assez bien jusqu'à 67-68.
Oui.
C'est après que ça devient un peu plus compliqué. Et puis en plus, j'aime bien apprendre aux gens, en fait, c'est ça qui est bien.
Vous êtes dans la transmission aujourd'hui.
Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Mais j'adore encore faire des trucs, hein. Il y a pas... J'ai encore un petit coup de langue sympathique.
J'imagine. Est-ce qu'il faut commencer très jeune si on veut devenir cascadeur automobile?
Alors, c'est-à-dire qu'il faut surtout trouver la bonne équipe. Donc, j'emploie des jeunes de temps en temps, mais quand c'est des trucs un peu compliqués, on cherche des gens qui ont un peu d'expérience. C'est un peu comme la Formule 1.
Mais oui.
C'est qu'en fait, les jeunes qui ont envie de faire ça, on s'occupe d'abord de nos gars à nous qui ont l'expérience. On peut pas... c'est compliqué.
Mais ouais. Alors, par exemple, vous avez pas mal de pilotes professionnels, peut-être déçus sur les circuits parce qu'ils ne trouvent pas les sponsors, ils n'ont pas les finances, qui vont se tourner vers la cascade automobile pour le cinéma. Ça arrive, c'est fréquent ?
Non.
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 Non, non, non. C'est pas fréquent parce que c'est quand même un milieu très fermé. Il faut reconnaître. Hein. Et puis,
c'est un milieu très fermé.
Oui, la cascade, oui. C'était très fermé. Oui.
Et vous expliquez ça comment ?
Ben, parce que il faut trouver déjà des films où il y a beaucoup de cascades. Et quand on a beaucoup de cascades, c'est des films américains. Il n'y a pas d'histoire. Hein.
Vous avez souvent tourné aussi avec Olivier Marchal. Vous avez fait Braco, 36 Quai des Orfèvres.
Oui,
et même, il y a des cascades dans les comédies, puisque vous avez tourné aussi avec Danny Boone, par exemple.
Ah oui, tout à fait.
Dans Rien à déclarer.
Dans Rien à déclarer, oui. D'ailleurs, on a fait un carton qui n'a même pas été monté, tellement c'était violent.
Oui, il paraît, j'ai appris ça, incroyable.
Oui.
C'est-à-dire que soudain, c'était tellement digne d'un blockbuster américain que Danny Boone s'est dit « Ah non, ça fait plus partie d'une comédie familiale. » C'était tellement prodigieux les images de carton en voiture que ça faisait peur.
Ah, oui.
Donc il a retiré ça au montage.
Oui.
Dommage.
Ah bah oui, ça c'est dommage. Et dommage parce que c'était vraiment... En plus maintenant avec les toutes petites caméras qu'il y a partout, il faut voir pour le croire comment c'est extraordinaire.
Mais je me suis laissé dire que vous alliez retourner avec Danny Boone, c'est vrai ou pas ?
Ah ben je tourne tout le temps avec Danny Boone.
C'est votre pote.
Oui, complètement.
Et vous allez également assurer la suite de Balles perdues avec Nicolas Duvauchel, Balles perdues numéro 2 pour Netflix.
Alors ça, on est en discussion là, parce que ça va se tourner à la fin de l'année. Et c'est surtout qu'on a un acteur qui, alors lui, adore conduire et qui est doué. Je pense qu'on va essayer de le faire progresser, qui s'appelle Alban Lenoir.
Oui,
voilà,
oui.
Et qui est un garçon génial.
Qui tourne dans Balles perdues.
Oui, qui a peur de pas grand-chose. Et il faut le calmer, parce que... il faut le calmer, parce que sinon, il est prêt à tout faire. Donc,
c'est rare un acteur qui n'a peur de rien et qui est prêt à tout faire.
Il y en a très peu, hein.
Ouais.
Bah, si, il y avait Jean-Paul, hein, bien sûr, mais... Bon,
Belmondo,
ça c'est... Effectivement, lui, il a peur de rien, parce que en voiture, bon, il a fait des trucs en voiture, mais ce qu'il a fait physiquement, c'était énorme.
Vraiment. Et là, c'est un grand cascadeur professionnel qui nous le dit. C'était énorme.
Ah oui, non, c'était énorme, Jean-Paul. Je l'ai vu faire des chutes d'escalier dans l'animal, mais je sais pas, 10 chutes d'escalier, et je peux vous dire qu'une chute d'escalier, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal.
De quoi avez-vous peur, vous, Jean-Claude Lanier ?
Moi, j'ai surtout peur. J'ai surtout peur que ça soit raté, en fait. C'est ça qui me stresse le plus maintenant que j'organise. Je me dis, pourvu qu'il ne se rate pas sur le truc. Et effectivement, c'est ça. Et maintenant, on est blindés en assurance. Mais en fait, moi, je touche du bois, mais c'est vrai que ça se passe bien. Et il faut que ça se passe bien.
Les cascadeurs français sont vraiment... pour les cascades de voitures automobiles, les meilleurs au monde. Toujours.
C'est ce que disent les Américains. Donc
Alors, si les Américains le disent...
C'est pas moi.
Ça doit être vrai. Bon, je vous remercie infiniment. C'était formidable de se balader comme ça dans vos souvenirs. Et je rappelle que vient de paraître chez Solar Edition, Doublure, Ma vie de pilote et de cascadeur, signé Jean-Claude Lanier. Merci infiniment, Jean-Claude Lanier.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
À bientôt.